Et maintenant, un bon podcast.
Eh bien, bonjour à toutes et tous, toujours au Festival Trolls et Légendes de Mons, en Belgique, et je suis en compagnie du responsable de la société 1-2-3 Games, qui est Patrick Latéraux. Bonjour.
Bonjour.
Eh bien, bienvenue au Festival Trolls et Légendes, évidemment. Est-ce qu'on peut passer sur l'histoire d'un 1-2-3 Games? Qu'est-ce que c'est, en fait, cette société?
Alors, 1-2-3 Games, en fait, au départ, est une idée qui n'aurait jamais dû voir le jour, puisque ce sont mes fils qui, fous de PlayStation, de consoles, un jour de vacances, m'ont un petit peu énervé. Je suis monté dans les chambres et j'ai débranché, bien évidemment, tout ce qui était informatique et console de jeu. Dans la foulée, le repas suivant, j'ai eu le droit, évidemment, à mes trois ados avec beaucoup de déception dans leur regard, et ils m'ont lancé le défi en me disant « Oui, puisque tu nous interdis de jouer aux jeux vidéo, si t'es si malin, t'as qu'à nous concevoir un jeu classique et on acceptera de jouer avec toi sans problème. » Ce que j'ai fait. La nuit suivante, je préparais sur une toile de jeu un premier proto, et l'histoire d'un 2-3 game a démarré en fait sur une variante des échecs qui s'est appelée Circle, C-I-R-K-L-E. Et de cette variante, aujourd'hui, on a à peu près une vingtaine de jeux. 1-2-3 game est devenu la société d'édition de cette première création. Le temps de faire les brevets, la fabrication, on s'est ensuite auto-édité. On a fabriqué nous-mêmes nos jeux, et depuis, 1-2-3 game existe en fait officiellement depuis 2003.
Donc ça part d'une expérience familiale, mais c'est le fait de passer de l'expérience familiale à la création d'une société, ça ne se fait pas en claquant des doigts.
Bien évidemment, si je n'étais pas au départ créateur d'autres sociétés, j'aurais pas pu aller jusqu'au bout de cette histoire, puisqu'en fait la différence entre une création et une invention, c'est qu'il y a beaucoup de créateurs, mais il y a souvent malheureusement beaucoup de créateurs qui ne peuvent pas aller au bout de leur création faute de moyens du financement de l'invention.
Ça veut dire qu'en tant que 1-2-3 Games, vous êtes à l'écoute de petits créateurs qui viendraient vous voir?
Exactement. Aujourd'hui, 1-2-3 Games non seulement fabrique les jeux de notre propre création interne, mais également, on est là pour, dans nos savoir-faire, aider les jeunes auteurs qui veulent s'auto-éditer, de bénéficier par des pré-séries, c'est-à-dire 2000 jeux, du savoir-faire, du design et du savoir-faire fabrication d'un 2-3 Games, pour bénéficier tout de suite d'un tarif fabrication sur leur pré-série, comme ils l'auraient fait sur de grosses séries, en prenant le risque d'aller se vendre entre guillemets à un gros éditeur.
1-2-3 Games, c'est combien de personnes ?
Aujourd'hui, c'est 3 personnes. C'est-à-dire, en fait, moi qui suis gérant, qui m'occupe du commercial, du marketing, un peu de création, un designer et une personne qui s'occupe du back-office, c'est-à-dire secrétariat. Voilà. Donc, c'est ce qu'on appelle une microstructure, mais qui aujourd'hui fabrique à l'international. Malheureusement, il a fallu, pour des raisons de rentabilité, de réalité, de distribution, délocaliser en Chine. Et on travaille par contre énormément avec l'Allemagne. D'ailleurs, je me suis installé depuis en Allemagne. Je vis à Stuttgart. D'accord. Alors que le siège d'un 1-2-3 Games est à Paris.
D'accord. Donc on est proche de l'Europe, là.
Ah bah, je pense oui. Aujourd'hui, si on veut avoir un début de réalité ou de réussite économique, même en micro-entreprise, il faut au moins parler 3 langues. Ouais. Ce qui est un minimum. Il faut utiliser les TGV. Là, c'est un petit côté cocorico. Mais quand on voit qu'aujourd'hui, des TGV nous relient Stuttgart-Paris en 3h30, c'est-à-dire plus vite qu'un Bordeaux-Paris, on est dans l'Europe, ça, c'est sûr.
C'est clair. Donc, 1-2-3 Games, donc on a entendu parler de Circle. On va peut-être passer à travers la gamme actuelle. Je te laisse, guide-moi.
Alors, la gamme Circle en elle-même, donc, qui avait démarré, comme je vous le disais, avec une variante des échecs, aujourd'hui, c'est 9 jeux. Donc ça va d'une variante des échecs en passant par une variante du Mastermind qui s'appelle Circle Mind, jusqu'à Circle Kids qui est un jeu pour les enfants avec des chapeaux. Mais le dénominateur commun de la gamme Circle, c'est en fait 4 formes. Le triangle, le carré, la croix et le cercle. Qui d'ailleurs, lorsque j'ai amené ce proto à mes fils, m'ont dit « Ah, tu nous as empêchés de jouer avec les PlayStation et tu nous as ramené les 4 symboles de la PlayStation. » Cette synchronicité m'a permis de me dire « Là, on est peut-être sur un coup intéressant.
Ouais, » Ok, donc ça c'est Circle, proche des échecs, pourquoi ?
Alors proche des échecs, puisqu'en fait la version de Circle avec ses 4 formes est à 80% dans une culture échec, sauf que le fou est devenu un avion, l'arène est devenue un tank, la tour est devenue un porte-avions et le cavalier est devenu un hélicoptère. Et proche des échecs parce que les échecs, comme tout le monde le sait, je ne vais pas refaire l'historique des échecs, se jouent sur un échiquier de 64 cases avec des cases blanches et des cases noires. Dans Circle, on joue avec 88 cases, mais surtout des cases qui sont creuses et pleines. C'est-à-dire qu'on joue avec un niveau dans la verticalité qu'on n'a pas aux échecs.
D'accord.
Ok, ça c'est un jeu qui est distribué dans quel pays ?
France, Allemagne, un peu en Suisse. Ça c'est un jeu, on va dire, intimiste, hein, qui s'intéresse, on va dire, qui intéresse surtout les gens qui ont une culture échec ou une culture des jeux stratégie. C'est vrai que dans la gamme Circle aujourd'hui, c'est pas le jeu qu'on vend le plus. Hein. Ce qu'on vend le plus aujourd'hui, c'est quand même Circle Kids, qui est devenu un produit à l'international, vendu en Chine, un peu partout en Europe. On a ensuite Duo 228, qui avec ses quatre symboles, un jeu de cartes de toute petite taille avec 4D, qui est un jeu de comptoir, comme on dit, qui permet de jouer comme le jeu tient dans une main. On peut l'emmener facilement dans un sac de voyage ou en vacances. Ça, c'est les deux jeux dans la gamme Circle qui se vendent le plus. Et au-delà de la gamme Circle, on a développé cette année Damix, qui est notre dernier né. Alors Damix, c'est un Rubik's Cube, on va dire, revu et corrigé. Non pas avec des faces qui sont amovibles, mais en fait un cube avec 6 couleurs, des faces fixes, 16 trous et 8 pions par face. Le but du jeu, c'est d'amener les 8 pions d'une face sur la face opposée qui correspond à la couleur de l'équipe qu'on doit mouvementer sur le cube. Et c'est ce qu'on appelle un jeu nomade, un jeu qu'on peut amener avec soi en voiture, en TGV, en gros, un jeu qui permet d'être utilisé là où les jeux de plateau ne peuvent pas être utilisés.
C'est un peu la ligne éditoriale d'un 2-3 games, c'est de se dire des jeux qu'on peut transporter partout.
Oui, c'est un petit peu la ligne sur laquelle on essaye d'aller. C'est-à-dire que, comme vous l'avez compris, ma vocation, c'est de ramener la convivialité et l'humanité dans la famille à travers un jeu qui peut se pratiquer avec tout le monde, pour justement ne pas laisser nos ados s'enfermer dans des univers ludiques que je respecte, mais où malheureusement, on ne maîtrise pas vraiment ce qui s'y passe. Et laisser des ados s'enfermer des heures entières dans des chambres, au bout d'un certain moment, il y a un isolement. Donc nous, notre volonté, notre déontologie, c'est de ramener l'humain, la place de l'humain dans la famille et surtout de la communication.
Tout à fait. Alors, Circle, Duo et Damix, ça c'est sorti de l'esprit des cerveaux d'un 2-3 games ?
Tout à fait. Ça, ce sont des conceptions entièrement 1-2-3 games et des savoir-faire fabrication entièrement 1-2-3 games. Voilà. D'ailleurs, si vous regardez le produit, on a mis un cube dans une sphère. Ce qui déjà au niveau du package en lui-même...
On parle de l'emballage, hein, l'emballage est rond.
qui là déjà au niveau du package donne un visuel où lorsqu'on voit ce type de produit, les gens nous disent « mais vous en avez fabriqué plusieurs centaines de milliers ». On dit « non, là on est dans la pré-série et on n'en a fabriqué que 3000 ».
D'accord, ok. Mais donc, il y a des activités 1-2-3 games qui sont conception from scratch, donc end-to-end comme on dit, et puis il y a aussi être distributeur d'autres auteurs. Et donc là on a une autre gamme, donc on retrouve Diabolik et Polygone qui sont connus mais qui sont difficiles à trouver en fait.
Alors Polygone et Diabolik, c'était des jeux qui avaient bénéficié dès le départ de prix. Diabolik avait été nominé en 2006 aux As d'Or et Polygone avait bénéficié d'une remise exceptionnelle à Innov Bordeaux également en 2006. Ces deux jeux avaient été gardés par les auteurs avec des fabrications artisanales à peu près à 500 exemplaires. Ensuite, ils se sont auto-édités et très vite, ils ont été rattrapés par la réalité de leur création, n'étant pas eux-mêmes des gens avec de gros moyens pour s'occuper de l'édition ou de la distribution. Ils ont commencé à confier la distribution à un petit peu trop de personnes. Ça a créé un énorme flou sur la distribution de ces produits. Il a fallu donc attendre pratiquement 2008, c'est-à-dire 2 ans après que ces produits auraient déjà eu un success story, qu'on repackage les produits avec une même ligne d'édition. Et aujourd'hui, effectivement, 1-2-3 Games oriente fortement la distribution, même si il y a également des partenaires qui s'occupent de la distribution. En Allemagne, c'est Gizé Verlag. Gizé, donc, qui est une société connue, à peu près l'équivalent de Gigamic en Allemagne, ce que les gens connaissent en France ou en Belgique sous l'enseigne Gigamic, avec seulement 2 produits, donc Polygone et Diabolik. Et ces 2 produits en bois, notre volonté, c'était de les amener à un prix qui soit en dessous de 30 euros. Et avec une mécanique ludique très méritoire. Et là encore, pas prendre trop de risques au niveau de la distribution en faisant que des petites quantités pour que, y compris nos partenaires allemands, n'aient pas une pression en leur disant « il faut que vous nous en fassiez 10 000 sur une année ». Quand on en fabrique 3 000, ils en prennent 2 000, nous en prenons 1 000, on se répartit les charges. Le marché allemand étant 2 fois plus gros que le marché français, la mathématique sont là pour nous donner apparemment raison sur ce niveau-là de distribution.
Ouais, ça fait. Alors justement, Diabolik, ça fonctionne comment ? C'est quoi l'idée ?
Alors Diabolik, c'est très simple en fait. C'est un jeu qui a un repère, on va dire, sportif. On a 7 pions de chaque côté sur un plateau qui est un 7 par 7.
Ouais.
chaque pion, comme vous pouvez le voir, même si nos auditeurs, eux, ne peuvent pas le voir, on fait une partie creuse sur le haut du pion. Et cette partie creuse permet en fait de réceptionner une balle qui va se balader de pion en pion. Et sur le plateau, en fait, chaque équipe constituée de 7 joueurs, le joueur, quand il développe son équipe et sa stratégie, a le droit à 2 mouvements par pion, affectés soit sur 2 pions différents ou sur un seul pion, et a le droit à une passe. Le premier joueur qui a réussi à amener un pion sur la ligne adverse et dans le même tour réussit à transmettre la balle à son partenaire a gagné la partie.
De loin, on dirait un jeu de dames, mais en fait, c'est un jeu de passe-passe, quoi.
Exactement, c'est un jeu de passe-va pour ceux qui ont une culture sportive handball, un jeu de coup de pied en avant pour les joueurs de rugby. En fait, chaque personne ayant un petit peu un côté fâché avec les jeux de stratégie, mais une très grosse connaissance sportive, vont se retrouver dans ce jeu-là.
D'accord. Et donc, je vois la logique des Red Diaboliques, c'était effectivement le handball, non ?
Au départ, oui. D'ailleurs, le créateur du jeu, qui est Philippe Lefrançois, était un joueur de handball à Lyon. Il a joué un très haut niveau, National 2, National 1.
Donc le sport mène à tout.
Tout à fait. Et le sport, avec en plus un plateau comme celui-là, dans son idée, c'était également de donner aux entraîneurs, par un jeu, plutôt que de faire du tableau noir dans les vestiaires. Avec Diabalik, il leur expliquait que les matchs se gagnent surtout sur des stratégies de défense et pas seulement d'aller marquer des buts. C'est le résultat de Diabalik et c'est vrai que pour y jouer régulièrement, ce jeu-là se gagne en développant une stratégie de défense et non pas d'attaque.
Oui, tout à fait, absolument. Et donc Polygone ?
Alors Polygone, donc, qui est un jeu de quelqu'un de très innovatif qui s'appelle Fabien Van den Busch. Donc Fabien est quelqu'un qui fait beaucoup de choses dans sa vie, a eu l'idée pour justement donner une capacité d'imagination de formes géométriques, toujours par une mécanique ludique, d'inventer un jeu qui s'appelle Polygone. Où avec une série de segments qui se déplacent sur un tablier avec des petites alvéoles qui permettent aux segments de venir se positionner dans le tablier, il suffit de créer un polygone au moment où on le ferme avec plus de segments que son adversaire et on peut prendre donc les segments de notre adversaire.
Oui, c'est ça, donc on a des petits segments de bois qui vont se déplacer en pivotant en fait, comme des portes sur le plateau de jeu.
Exactement, chaque segment a le droit à une rotation. On peut même faire une rotation, comme vous pouvez le remarquer, en sortant du bord du plateau. Et à chaque rotation, si le segment vient fermer un polygone, imaginons un polygone simple, un triangle, trois segments, si vous avez deux segments d'une couleur qui enferment un segment d'une autre couleur, les deux segments noirs vont prendre le segment blanc qui a été fermé au moment de la fermeture du triangle.
Donc ça, c'est un des buts du jeu, c'est déjà déforcer son adversaire. Et puis l'autre but, finalement, c'est d'arriver de l'autre côté du plateau.
Exactement. La règle, normalement, c'est de prendre 7 segments à l'adversaire.
Ouais. Hein,
et l'autre possibilité, lorsque les joueurs sont de niveau à peu près équivalent, s'ils n'arrivent pas à prendre le dessus en capturant des segments, il suffit qu'ils amènent un segment sur la pointe extrême du tablier de l'adversaire et que ce segment touche cette pointe et la partie est gagnée.
D'accord.
Donc on peut en fait à Polygone gagner avec un seul segment. Je pense que cette année on va sortir un troisième jeu dans notre gamme en bois pour venir compléter le triptrick diabolique Polygone. On va reprendre certainement en fabrication, en distribution, un jeu connu qui s'appelle Tetrano et très connu en Belgique puisque c'était un jeu